a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI. Et c'est avec vous, Émilie Zabalski. Bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste de la communication politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Alors, dans la perspective de l'élection européenne, début juin, les partis lancent leur campagne les uns après les autres. Cet après-midi, cela a été le cas de Reconquête, la formation de Éric Zemmour, dont Marion Maréchal est la tête de liste. Le meeting avait lieu au Dôme de Paris et Pierrick Bonneau y était pour Radio France Internationale.
Dans le rôle du chauffeur de salle, un transfuge du parti Les Républicains, Guillaume Pelletier, désormais vice-président de Reconquête, et il verse d'emblée dans l'islamophobie.
Le 9 juin, il n'y a qu'un seul enjeu, il n'y a qu'une seule question. Voulez-vous que l'Europe devienne musulmane ou qu'elle reste européenne ?
Une nuée de drapeaux bleu-blanc-rouge flotte dans la salle quand Éric Zemmour monte sur scène. Le patron du parti entame un cours sur l'histoire de l'Europe et nomme son adversaire.
L'Union européenne a trahi sa mission. Elle ne nous défend plus, bien au contraire. Elle est devenue un continent aux frontières béantes. C'est en terre européenne que se lève aujourd'hui l'enfant de Staline et de Mahomet, l'islamo-gauchisme.
La tête de liste Marion Maréchal conclut le meeting en ressortant le concept de guerre des civilisations.
Il y a désormais deux peuples sur notre terre. Deux France. Face à face, deux France qui se font face, deux France qui n'auraient plus aux mêmes joies. Nous sommes là pour porter la voix de la résistance et de la reconquête en France et en Europe.
Un appel est lancé aux électeurs du RN et des LR, car pour le moment, avec plus ou moins 5% d'intention de vote selon les sondages, Reconquête n'est pas assurée de faire son entrée au Parlement européen. Au Dôme de Paris, Pierrick Bonneau, RFI.
Émilie Zabalski, compliqué pour un parti de faire campagne pour entrer au Parlement européen, alors que le combat... L'Europe, ça peut même paraître schizophrène.
Oui, on peut imaginer que c'est schizophrène, mais en même temps, il y a une espèce de tendance. Avant, on ne critiquait pas tellement l'Europe, ou alors quand on critiquait vraiment, on était jugé comme des extrémistes. On a vu quand même l'Europe réagir avec les crises, Covid, Ukraine, énergie, là plus récemment avec la crise agricole, mais on a aussi laissé la possibilité de critiquer davantage l'Europe. Et on entend même dans le camp Renaissance, dans le camp présidentiel, cette volonté de faire bouger les choses. On a vu les limites du côté libre-échange, des traités autour de ça, avec la crise agricole récente, il y a eu pas mal de critiques qui ont été entendues. Pourtant, les agriculteurs soutiennent évidemment l'Europe, puisqu'ils soutiennent la politique agricole commune qui leur revient pour une grande partie. Donc, on voit qu'il y a quand même un créneau à prendre, qu'a pris le Rassemblement national d'ailleurs, pour dire « l'Europe fonctionne pas bien, il va falloir la reprendre en main ». Donc, il y a cette idée-là. Et après, c'est pris pour Zemmour, comme d'habitude, hein, grand remplacement oblige, sur cette version islamisation de la France, de l'Europe. Et ça, il y a une partie de la population française qui est quand même à l'écoute de ça, de ce message-là. On a vu notamment au moment du passage de la loi immigration du gouvernement que les Français, ils étaient globalement d'accord hein, pour ces mesures assez strictes qui avaient été durcies pour cette loi immigration, même s'ils reconnaissaient à 73%, je crois, que les idées étaient inspirées du RN. Donc il y a quelque chose qui est quand même dans l'air du temps, j'allais dire, beaucoup plus qu'auparavant. Maintenant, c'est en effet très dur pour Zemmour, pour Marion Maréchal, en tout cas tête de liste, parce que d'abord, ils ont les mêmes programmes sur ce sujet-là que le Rassemblement National et que les LR pratiquement. Tout le monde est aligné hein, de ce côté-là, extrême droite et droite dure sur l'immigration. Donc rien de nouveau. On les crédite, je crois, de 5 à 7% là, actuellement, Marion Maréchal. Oui. On se souvient, hein, Zemmour, il était crédité quoi, et ça allait jusqu'à
17%, 19%.
Et il a,
durant la campagne.
Voilà, et le résultat a été bien maigre. Donc il faut faire très attention à tout ça.
Et puis hier, c'était à Lille que Renaissance, le parti présidentiel, a inauguré également sa campagne électorale. La liste est emmenée par Valérie Hayer et Gabriel Attal est venu lui apporter son soutien en s'en prenant vertement, frontalement, au Rassemblement national.
Dans cette élection, face à nous, se lèvent les rentiers de la peur. Pour eux, chaque solution est un problème, parce que chaque problème est une opportunité. Ils prospèrent sur les malheurs, alors ils les cultivent soigneusement. Et tout dans leur bilan le montre. Le bilan du clan Le Pen, c'est 40 ans de Parlement européen, 40 ans d'indemnité de mandat, 40 ans de fantômes dans les couloirs de Bruxelles et de Strasbourg.
Et en plus des petites phrases bien senties comme celle-ci, le Premier ministre est également allé sur le fond pour étayer son argumentaire anti-RN.
L'Europe, il fallait à tout prix en sortir. Et maintenant, ils font mine de dire qu'on pourrait y rester. Après avoir fait campagne pour le Frexit, après avoir soutenu les partisans du Brexit, après avoir nommé dans des communes dirigées par des maires du Rassemblement National certaines rues, rues du Brexit, après avoir dit sur tous les tons qu'il fallait sortir de l'Europe, le Rassemblement National a maintenant le Frexit honteux. Mais les discours changent, mais le projet reste. Les mots changent, mais les idées restent. Ils veulent nous faire croire qu'ils veulent rester dans l'Europe, mais sans payer la contribution de la France, sans respecter les règles et les traités. Je vous le dis, quand on prétend arrêter de payer sa contribution, quand on dit qu'on va arrêter de respecter les règles communes et les engagements qui ont été pris, ça a la couleur du Frexit, ça a l'odeur du Frexit, ça a le goût du Frexit, c'est normal, c'est un Frexit qu'ils nous proposent.
Et ces propos inspirent cette réaction au député RN, justement, qu'est Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée, sur le plateau de France 3 en fin de matinée.
Heureusement que le Rassemblement national existe pour permettre à Gabriel Attal de trouver quelques angles d'attaque, parce que je n'ai entendu hier dans ce meeting aucune proposition et aucune solution par rapport aux crises que traversent les Français. Alors Gabriel Attal peut insulter 42% des électeurs, peut fantasmer. La réalité, c'est que tout ça est fait pour cacher un bilan, parce que l'équipe majoritaire, Gabriel Attal et sa candidate inconnue, ne veulent pas qu'on parle des sujets de fond. Et leur bilan, crise migratoire, crise agricole, crise financière, crise de la sécurité, eh bien leur bilan est tellement lamentable qu'ils préfèrent insulter des adversaires que développer des propositions.
Et autre réaction, celle du chef du Parti communiste, Fabien Roussel, sur Europe 1 ce matin.
La majorité fait une erreur, parce qu'en faisant ça, ils font beaucoup de pubs. Rassemblement National, à sa tête de liste, en installant un duel, ils veulent, comme s'ils voulaient partager l'électorat en deux, et c'est une manière de faire monter l'extrême droite. Alors qu'il y a en France des listes de gauche, plusieurs, qui portent des projets, qui se rejoignent sur beaucoup d'aspects, et qu'il peut aussi y avoir, à l'issue de ces élections européennes, beaucoup plus de députés européens de gauche et écologistes qu'il n'y en avait avant, et donc nous pouvons nous aussi montrer que la gauche, elle est aujourd'hui porteuse de propositions qui défendent la souveraineté française, la souveraineté agricole, la transition écologique.
Et puis il faut bien évidemment écouter tout de même la tête de liste Renaissance, Valérie Ayer, qui était tout à l'heure sur LCI.
La trahison, c'est le fait de servir les intérêts de la Russie avant les intérêts de la France. Il faut expliquer aux Français la vérité des positions du Rassemblement national, la vérité du rôle du Rassemblement national en lien avec Vladimir Poutine. C'est pas, effectivement, il y a eu des discours hier, c'est pas nous seulement qui le disons. C'est une commission à l'Assemblée nationale, présidée par un député du Rassemblement national, qui conclut que le Rassemblement national est la courroie de transmission du Kremlin en France. C'est vos confrères du Washington Post qui concluent également au lien entre le Rassemblement national et la Russie de Vladimir Poutine.
Voilà, le Rassemblement national et l'Ukraine. L'Ukraine, on va y venir dans un instant. Émilie Zapalski, en tout cas, on retient de ce lancement de campagne du présidentiel que ça harangue contre le RN.
Oui, mais c'est pas nouveau. Hein. Je sais pas si on fait un petit retour en arrière, les dernières élections européennes, c'était exactement la même stratégie qu'avait choisi le camp présidentiel, c'est-à-dire une lutte avec l'adversaire numéro un, et donc que des thématiques qui concernent l'adversaire numéro un, le Rassemblement national. Et ça n'a pas permis au camp présidentiel. Alors, ça avait réduit l'écart, je crois. Nathalie Loiseau avait un petit peu réduit l'écart. Là, l'écart, il est énorme hein, quand même. Hein. Et il a l'air de s'agrandir encore.
Ben, je crois qu'on est à 30 pour le RN même, et 20 pour le Parti présidentiel.
Oui, enfin, même, on entend dire 17 et 29,5. Donc, voilà, ça bouge. Je crois que c'est même François Bayrou qui a dit la même chose que Fabien Roussel. C'est-à-dire, il faut arrêter. Là, ça leur fait beaucoup de pub au Rassemblement national. Et je ne suis pas sûre que ça soit toujours une contre-pub dans ce qu'ils disent, ça peut se retourner vraiment contre le camp présidentiel et ça l'empêche d'aller dans le fond, ce qui est très étonnant parce que depuis 2017, on sait qu'Emmanuel Macron c'est un pro-européen, on l'a vu revenir à la charge plusieurs fois pendant la crise sanitaire, pendant l'Ukraine, là dernièrement, pour essayer de défendre l'Europe, de réveiller l'Europe, parfois avec succès, parfois sans rien parce que l'Europe est assez grosse et c'est difficile de bouger tout seul. Et qu'est-ce qu'on a là ? On n'a pas de programme, on n'a pas d'ambition pour l'Europe, on n'a rien sur la défense, on n'a rien sur la transition écologique, on n'a rien sur l'agriculture, qui est quand même une crise ouverte depuis plusieurs semaines. On n'a que des arguments, des contre-arguments, enfin pour contrer le Rassemblement national. Alors je comprends leur terreur, parce qu'ils sont très élevés. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure sur Zemmour, c'est qu'on voit bien aussi qu'il y a, ça bouge au niveau du Parlement sur l'extrême droite. Il peut y avoir un bloc d'extrême droite beaucoup plus fort qu'avant, et ça c'est un risque. Mais est-ce que parler d'eux tout le temps, ça va les faire disparaître ou ça va les faire diminuer dans les votes, je ne suis pas sûr.
Alors faire de la pub au RN, on vient de l'entendre, mais ressurgit la polémique sur le fait que le RN ne mérite pas d'être considéré comme une force politique quand il est déclaré qu'il n'appartiendrait pas à l'arc républicain ou qu'il ne faut pas débattre avec lui. On a l'impression que ce sont les vieilles recettes anti-FN. Oui. Le prédécesseur du RN.
Oui, alors que c'était exactement ce que Macron voulait combattre en disant maintenant c'est fini, on ne peut plus, avec les vieilles recettes, combattre le Rassemblement national, il faut arrêter. Vous vous souvenez, il avait recadré Elisabeth Borne sur ce sujet.
Absolument.
Il y a quelques mois. Pourquoi y retourner ? Moi, la question de l'arc républicain, franchement, j'y comprends rien. On invite Jordan Bardella aux rencontres de Saint-Denis, on le reçoit en grande pompe. En plus, ça a été une opération de communication très réussie pour lui, parce que ça a été l'un des seuls qui a été audible à la sortie. Il a pris son rôle très au sérieux. Il a gagné un statut présidentiable, ce monsieur, à l'issue des rencontres de Saint-Denis. On dit qu'ils sont plus dans l'arc républicain, on dit que oui, on dit qu'il faut... Enfin, ça n'a aucun sens. Moi, je pense que ça, au niveau de la communication, ils devraient abandonner ça, parce que ça n'a pas de sens et ça ne veut rien dire. Ils sont élus, ils sont au Parlement. Après, que les valeurs ne soient pas les mêmes, pourquoi pas, mais... Je crois que ça ne fait aucun résultat, cette espèce de rhétorique.
Émilie Zabalski de l'agence Émilie Conseil.
Philippe Le Caplin.
Dans Dimanche Politique, parlons de la guerre en Ukraine. Il en sera question après-demain à l'Assemblée nationale et les députés auront ce propos du président de la République en tête.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. Et il nous faudra... être à la hauteur de l'histoire.
Comme le président n'a pas le droit, au terme de la Constitution, de mettre les pieds au Palais Bourbon, c'est le Premier ministre qui doit détailler les termes de l'accord de sécurité déjà signé par la France avec l'Ukraine. Ce qu'en espère Sébastien Chenu pour le Rassemblement national.
D'ailleurs, un peu particulier que le président de la République ne soit pas venu à travers Gabriel Attal nous exposer son plan, mais le discours de Gabriel Attal, on va voir ce qu'il recèle. Nous, on a des lignes rouges qui nous empêcherait probablement de voter. C'est l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et puis, la deuxième, c'est pas de troupes au sol.
Ça, c'est pas non plus dans l'accord.
D'accord, c'est pas dans l'accord.
Donc, vous êtes
mais
prêt
c'est dans le verbe. Si c'est un accord de sécurité qui fait abstraction des lignes rouges que je vous ai énoncées, alors nous pourrons le regarder avec beaucoup plus de bienveillance.
Après avoir évoqué la possibilité de l'envoi de soldats sur le terrain, on vient d'entendre, le chef de l'État a reçu les chefs des partis politiques cette semaine pour les entretenir justement de cette guerre en Ukraine. Voici les impressions des intéressés qui prônent tous un cessez-le-feu. Fabien Roussel pour le PC.
Ce que je regrette et ce que j'ai entendu du président de la République lors de la réunion que nous avons eue à l'Élysée, c'est qu'il endosse les habits de la guerre militaire comme la guerre sociale qu'il mène en France. C'est très inquiétant pour la suite. D'abord, il n'a pas dit un mot sur la diplomatie française et le rôle qu'elle doit jouer aujourd'hui avec d'autres pays qui appellent à ce que l'on trouve un cessez-le-feu. Nous avons besoin d'une coalition pour la paix et de ramener la paix en Europe. Monsieur Poutine est un dirigeant d'extrême droite nationaliste qui tue ses opposants comme monsieur Navalny. Il est dangereux et effectivement tout doit être fait pour qu'il ne gagne pas.
Et maintenant, Manuel Bompard de la France Insoumise sur RTL.
Qui participe d'une surenchère de discours de guerre qui font courir sur la paix en Europe, mais la paix dans le monde entier, un risque qui est un risque majeur. Et donc je considère que ces propos sont une folie totale. Et je suis très inquiet de voir que le président de la République les a maintenus pendant ce rendez-vous. La voie militaire, la solution militaire est une impasse. Et que donc la France, plutôt que de chercher, comme le président de la République Emmanuel Macron le fait, à devenir en quelque sorte le leader du camp de la guerre, nous considérons que la France devrait prendre la tête du camp de la paix. C'est-à-dire qu'elle devrait s'engager dans des médiations internationales, dans des négociations internationales, pour que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible.
Alors que faut-il faire dans ce sens ? Écoutez ce que dit Guillaume Pelletier pour Reconquête.
Nicolas Sarkozy a une phrase qui est très juste. Qui peut prétendre aujourd'hui faire déménager la Russie ? Vladimir Poutine, il est là. On peut faire semblant, on peut annoncer la guerre, on n'en a même pas les moyens. Éric Zemmour le dit encore ce matin, il a raison. On n'a même pas 3 jours de munitions en France, donc un peu de modestie. Par contre, si l'ensemble des nations européennes, parce que vous avez vu que M. Macron La conséquence de tout ça, c'est qu'il a isolé la France. Vous avez entendu le chancelier allemand, vous avez entendu la présidente du Conseil italien, vous avez entendu la diplomatie américaine qui ont dénoncé les excès de langage du président français. Et donc, au lieu d'isoler la Russie, la position de Macron conduit à isoler la France. Eh bien, pour reprendre le chemin du général de Gaulle, qui est une France qui est entendue dans le monde entier, oui, nous pensons qu'il faut tout mettre en œuvre pour mettre tout le monde autour de la table et imposer un cessez-le-feu.
Émilie Zapaski, l'Ukraine s'invite donc dans la campagne européenne. C'est même une ligne de fracture.
Oui, c'est une ligne de fracture qui a été provoquée, je pense, par Emmanuel Macron en vue des élections européennes. Alors, loin de moi l'idée qu'il ne cherche pas à sauvegarder, évidemment, l'Ukraine dans cette guerre, à aider. Mais il y a aussi cette volonté de mettre à jour ce positionnement pro-russe du Rassemblement national. Encore une fois, essayer d'affronter cet adversaire numéro un pour les élections européennes. Et ce débat et ce vote, c'est un peu, voilà, pour leur dire, bah, si vous êtes contre, c'est que vous êtes vraiment pro-Poutine. Il faut se souvenir quand même que dans le programme présidentiel 2022 de Marine Le Pen, il y avait une association avec Poutine. Hein. Il y avait quelque chose de l'ordre d'une collaboration. Donc il y a ça derrière. Il veut mettre à jour ce rôle-là pour essayer de les affaiblir. Je ne suis pas sûre que ça soit très gagnant, parce que si on regarde les sondages, 68% des Français ont désapprouvé hein, les propos d'Emmanuel Macron. Ils ont même désapprouvé par la suite la réaffirmation qu'il en a fait. Ils ont très peur, et on peut comprendre, enfin ça fait peur quand même quand on parle de troupes au sol, donc je suis pas sûre que ça soit très habile, même politiquement, en vue des élections.
Revenons sur cette réunion des chefs de parti cette semaine à l'Élysée. Ça fait penser à une diversion pour plusieurs d'entre eux. Éric Ciotti, le chef du Parti Les Républicains.
Il y avait derrière cette réunion le soupçon d'une instrumentalisation aux fins de campagne électorale pour les élections européennes. J'ai redit notre totale opposition à l'engagement de troupes au sol.
Et on écoute à nouveau le communiste Fabien Roussel.
Je pense que le président de la République souhaite véritablement endosser les habits d'un chef militaire. Je vais aller plus loin. C'est une manière aussi pour lui d'évacuer complètement la situation sociale catastrophique que nous vivons en France, mais aussi en Europe. C'est une manière pour lui de faire la campagne des élections européennes avec cette caricature absolument stupide et bête de dire « il y a ceux qui sont pour l'Ukraine et ceux qui seraient pour Poutine ». Enfin, mais quelle bêtise de dire ça.
Ça, c'est pour le communiste, maintenant pour l'extrême droite, ce que déclare à peu près la même chose Sébastien Chenu.
Si vous n'êtes pas favorable à l'envoi de troupes en Ukraine, vous êtes Poutine. Vous êtes favorable à Poutine. Ces procès en russophilie sont en réalité à côté de la réalité et sont faits encore une fois pour détourner du regard les électeurs des vrais enjeux. Vous savez, il y a un élément hein, à prendre en considération, c'est le directeur de la DGSI, le renseignement intérieur, nommé par Emmanuel Macron, qui a dit « il n'y a aucun parti politique en France, qui ne subit d'ingérence étrangère. Tout ça, c'est de la rhétorique de campagne. Lorsqu'ils disent que nous sommes pour le Frexit, lorsqu'ils disent que nous sommes proches des Russes, ce sont des fake news. Ils jouent sur les peurs.
Alors, est-ce qu'il y a diversion ou pas pour vous, Émilie Zapaski?
En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron, les habits de chef de guerre, ça lui a plutôt réussi. En 2022, ça lui a permis un peu d'écourter sa campagne électorale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il ne venait pas à certains débats parce qu'il était appelé à des représentations internationales, des réunions, des rencontres avec
D'autant
Zelensky.
D'autant que la France présidait l'Europe, donc la il France était l'interlocuteur l'Europe, de la France et de l'Europe.
Exactement, et il était pleinement dans ce rôle qu'il y était plutôt favorable. Et on le sait, hein, il y a un effet drapeau la plupart du temps en temps de guerre, les Français, les Françaises se rangent derrière le président. Ils ont peur, ils ont besoin d'être protégés, on a besoin de stabilité. Je pense qu'il veut rejouer, il y a un peu de cet ordre-là, il y a le côté adversaire RN pro-russe, mais il y a aussi cette envie de faire diversion, d'essayer de s'habiller de ses habits de chef de guerre. On voit qu'il fait diversion aussi avec ce qui vient de tomber, c'est-à-dire la fin de vie, vous en avez parlé tout à l'heure, ce projet de loi, je pense aussi qu'il doit faire unité nationale, parce qu'il est assez consensuel, hein. On a vu que les Français étaient prêt. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté de déplacer en fait la campagne électorale pour essayer de sortir un petit peu vainqueur ou en tout cas de réduire l'écart avec le Rassemblement national.
Vous pensez qu'il va s'impliquer personnellement dans cette campagne pour les élections européennes ?
Bah, pour moi, c'est une manière indirecte de s'impliquer personnellement, tout comme il a nommé Gabriel Attal pour faire face, on dirait, au candidat Jordan Bardella.
Merci pour ces analyses et commentaires, Émilie Zapaski, spécialiste de la communication politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Dimanche politique, on se retrouve bien évidemment sur le site internet de RFI et sur les applis et l'appli Pure Radio de Radio France Internationale. Dimanche politique, réalisé ce soir par Valentin Vanner.